بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم Chers frères et sœurs en islam, en ce jour de Jumu'ah, Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité d'étudier un verset essentiel qui nous permet de mieux connaître notre Seigneur Azza wa Jal. Réaliser que la relation que nous avons avec Allah, notre Créateur, notre Maître, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la foi, celui qui nous comble de bienfaits et celui qui attend de nous un parcours correct qui répond à ce qu'il a légiféré. Notre relation avec le Seigneur est basée sur la clémence. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Allah Azza wa Jal est Al-Ahad al-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah est unique. Allah est indépendant. Allah est omniscient, omnipotent. Ala kulli shay'in qadir. Ala kulli shay'in wakil. Il n'a personne au-dessus de lui. Il n'a personne qui est à son niveau. Tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est, j'ai hésité à utiliser le terme exister, tout ce qui existe entre guillemets en dehors d'Allah Rabbul Izza, ça s'appelle al-makhlouqat, les créatures. Ça s'appelle al-alamin, les mondes qu'Allah a créés et qu'Allah anéantira le jour où il décidera d'anéantir la création pour redonner vie par la suite. Ce que nous devons retenir, c'est que notre Seigneur, Rabbul Izza, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a décrété, il a pris une décision concernant sa façon d'agir avec ses créatures. C'est ce qu'on appelle la sunnat d'Allah, sunnatullah. Comment Allah agit avec la création? Allah a décrété et c'est lui seul qui prend les décisions, bien sûr, concernant sa façon d'agir avec nous. Allah a décrété et ce verset est magnifique et rempli nos cœurs d'espoir. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. As-Sa'di rahimahullah explique dans son verset, ou plutôt Ibn Kathir rahimahullah, ay awjabaha ala nafsihi al-karima. Allah a décidé que c'est de cette façon qu'il va agir avec la création, avec clémence, avec miséricorde, avec bonté. Et à tel point, cela est important pour Allah Rabbul Izza, qu'Allah a sur son trône écrit, c'est écrit sur le trône d'Allah Azza wa Jal. Nous devons faire très attention quand nous utilisons les termes, les verbes pour qualifier notre Seigneur. Donc, Allah a au-dessus de son trône, il a cette phrase qui est écrite « Rahmati ghalabat ghadabi » « Ma clémence » à le dessus, à dépasser ma colère. C'est-à-dire que notre Seigneur peut sévir, notre Rabb peut se mettre en colère. Allah peut détruire des peuples qui le désobéissent et qui l'ont désobéi. Mais ce qui prédomine, c'est la clémence d'Allah, Azza wa Jal. Et avant-hier, il me semble, il y a trois jours, pour ceux qui lisent un juz, un sibara par jour depuis le premier soir de Ramadan, il y a eu le verset wala yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu. Il a akhir al-aya, me semble que ce verset se décline de deux façons de le Coran dans ses ajza, il me semble c'était le 12 ou 13e juz ou 14e, et puis un peu plus loin il y a une autre version de ce verset dont le sens est: si Allah devait sévir, si Allah s'était fixé comme règle dans sa sunna qu'il allait punir chaque pécheur immédiatement, pour le péché qu'il accomplit sur terre, ma taraka ana zahriha min dab. Allah n'aurait laissé aucun être vivant sur cette terre, parce qu'il n'y a pas une créature qui peut se permettre, qui peut se vanter de passer une vie sans le moindre écart de comportement. C'est impossible. Et on revient là aux êtres humains, ça fait partie de la nature de l'être humain que de se tromper, que de commettre des erreurs, d'accomplir des péchés. Et ça, ça nous permet d'emboîter vers la deuxième, la troisième partie du tafsir de ces versets de la sourate Al-An'am. Parce que lorsque notre Seigneur rappelle que Kataba Rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Allah Azza wa Jal termine ce verset 54 en rappelant que annahu man 'amila minkum su'an bi jahalah thumma taba min ba'di wa aslah fa annahu ghafurur rahim, et que si n'importe quel croyant ou croyante accomplit un péché et ensuite il demande pardon à Allah Azza wa Jal et il se réforme dans le sens où il revient sur ses actes et il va améliorer, c'est un verset qu'on va commenter dans un instant, et qu'il améliore le et qu'il améliore ses jours après le Tawbah, il prend un nouveau départ, ben sache qu'Allah est pardonneux et miséricordieux. Ainsi, cela découle directement de la rahmat d'Allah, le fait qu'il pardonne à celui qui réalise ses erreurs et lève les mains, lui demande pardon et décide de se racheter et de ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire le Tawbah tun nasuha, hein, qu'on a expliqué, on a expliqué hier. Ainsi donc, quand Allah annonce que sa clémence dépasse sa colère. Et quand de ce verset nous voyons Kataba Rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ben ce verset fait naître en nous beaucoup d'espoir et nous réalisons que notre Seigneur agit avec nous avec clémence et miséricorde. Et justement, pour revenir au verset qu'on a cité en exemple, que si Allah devait sévir chaque personne pour ses erreurs, il n'y aurait plus une personne sur terre, parce que tout être humain accomplit des péchés. Et c'est là que nous faisons le parallèle avec les versets suivants. Et ces versets commentés par des muhaddithin, des mufassirin, qui font le parallèle avec le fameux hadith concernant le tawbah, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que kullu ibn adam, tout être humain, khata, tout être humain est pécheur, accomplit des péchés. C'est-à-dire que ça fait partie de la nature de l'être humain que d'accomplir des péchés et de se tromper, de commettre des erreurs. Wa khayrul khata'ina tawwabun. Mais sachez que parmi ces êtres humains qui accomplissent des péchés, qui commettent des erreurs, les meilleurs parmi eux sont qui ? Sont ceux qui demandent le tawbah, qui s'en remettent à Dieu et qui demandent pardon pour leurs péchés. Ça nous permet de comprendre qu'il y a en même temps cette clémence d'Allah qui est immense, qu'on ne peut pas quantifier, comprendre, tout comme la baraka, quand on a eu l'occasion de parler de la baraka, quand on parle de la bénédiction qui vient d'Allah, c'est quelque chose qui ne peut pas être évalué ou pesé. Pareil, la rahma d'Allah, elle est exceptionnelle. Et Allah atteste qu'il s'est prescrit lui-même la clémence. Et le hadith rappelle qu'au-dessus de son trône, c'est écrit que sa clémence dépasse sa colère. Cependant, ce que nous devons retenir, c'est que l'homme ne va pas d'une certaine façon, ne doit pas s'attendre à obtenir un pardon divin total, complet, sans le moindre effort. Non. N'importe quel croyant, je le répète, qui commet des erreurs, qui accomplit un péché, doit savoir qu'Allah est clément miséricordieux, mais qu'il y a un effort à faire. Et l'effort, c'est quoi? C'est le tawbah, la demande de pardon. Et celui qui lève les mains et qui réunit les conditions qu'on a citées hier, à commencer par la sincérité et les remords, il trouvera cette clémence d'Allah, comme notre Seigneur nous rappelle de le Coran, « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ». Allah pardonne l'ensemble, l'intégralité des péchés, mais à condition que l'homme se souvienne de son Seigneur. Après, si une personne reste dans la rafla, dans l'insouciance, là on sort légèrement du tafsir, du sujet, il y a une autre façon d'obtenir la grâce divine de façon passive, mais je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne, mais beaucoup de gens trouvent quand même le pardon divin de cette façon,
de façon passive. C'est par les épreuves, par les ibtila. Quand une personne est atteinte dans sa santé, dans sa personne, dans son intégrité, dans ses biens, dans sa famille, et ainsi de suite, toutes les épreuves qui sont citées dans l'Al-Baqarah, wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-jou', wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Quand on est atteint par des épreuves, c'est un moyen. Il y a plusieurs sagesses à travers les épreuves. On ne va pas s'étaler sur cette thématique. Mais parmi les sagesses divines de notre Seigneur, à travers l'épreuve, Allah nous accorde son pardon. C'est-à-dire qu'une personne peut quitter ce monde même avec quantité de péchés cumulés et cette personne n'a jamais eu la présence d'esprit, malheureusement, de demander pardon à Allah parce qu'il n'a jamais vraiment connu son Seigneur, il n'a jamais connu vraiment quelles sont les règles fixées par Allah et notre Seigneur décide de l'éprouver par une maladie et cette personne va être, comme on dit, emportée par la maladie. La personne va être alitée, va souffrir pendant un laps de temps qu'Allah seul connaît et quitter ce monde à l'issue d'une longue souffrance. Je ne le souhaite à personne parce que nous devons tous demander à Allah husnul khatima, une mort avec la foi, mais également une mort qui est facile où il n'y a pas de souffrance. Mais celui qui souffre avant de mourir, celui qui a iman bien sûr, qui souffre avant de mourir, c'est, je pèse mes mots et je mets énormément de guillemets parce que je ne veux pas que ça affecte les gens qui ont perdu des proches sur un lit d'hôpital. Un signe, Raja, ça nous donne de l'espoir, je reprends, ça nous donne de l'espoir qu'Allah a pardonné ce serviteur. Qu'avant qu'il retourne vers lui, Allah l'a peut-être, l'a certainement lavé de ses péchés ou d'une partie ou d'une grande majorité de ses péchés. Wallahu ta'ala a'lam, Allah seul le sait. C'est une gestion qui est propre à notre Seigneur. Mais la souffrance est synonyme de kafara, de pardon des péchés. Mais avant d'en arriver à là, il est mieux, il faut régulièrement demander pardon à Allah pour nos péchés parce que nous devons savoir que quand nous cognons à la porte de notre Seigneur, nous cognons à la porte de celui qui est clément et miséricordieux. Hada. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il a bien développé, subhanallah, beaucoup plus que Allama Sa'di, il a beaucoup plus développé cette notion de Rahma d'Allah Azza wa Jal. Il cite également le hadith qui concerne cette fois-ci le jugement dernier. Idha faragha Allahu min al-qada'i bayna al-khalqi. Ces paroles, ces hadiths, hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui rapporte sur Ibn Abbas que Idha faragha Allahu min al-qada'i bayna al-khalqi. C'est un hadith qui nous donne normalement des frissons. Parce que ce hadith parle de la situation de la création quand tout sera terminé. Là, nous sommes dans la phase de amal, d'action. Nous sommes en train de préparer notre destin, notre destinée, notre akhira. C'est par les actions que nous faisons maintenant, de le mois béni, et dans la fermeté qui sera, inshallah, notre qualité essentielle après ce mois béni, après ce confinement, ce retour vers Dieu permanent, cette confiance en Allah, cette soumission totale à ses ordres, c'est par ces a'mal que nous construisons notre au-delà. Mais viendra le jour où Allah va nous ressusciter et va juger ses créatures et il y aura le décret divin et il y aura ceux qui iront vers le Jannah, Allahumma ja'alna minhum, et ceux qui iront éternellement dans l'enfer à cause du shirk et du kufr, nasallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'alna minan nar, et ceux qui font partie des Ahlul Tawhid, des gens qui avaient la ilaha illallah et qui devront passer un laps de temps dans le Jahannam à cause de leurs péchés, qu'Allah nous protège. Et on avait expliqué dans les préparations, dans les programmes de préparation du mois de Ramadan, que durant ce mois béni, pendant chaque nuit pardon, du mois béni, Allah délivre une quantité de personnes du feu de l'enfer. Et les ulama, les muhadithines expliquent que ce sont des gens qui, à cause de leurs péchés, justement des croyants, méritaient le Jahannam pendant un laps de temps pour qu'ils se fassent pardonner de leurs péchés. Et justement, après qu'Allah aura jugé l'ensemble de la création et que les gens du paradis seront dans le paradis et les gens de l'enfer seront dans l'enfer, et là, focus sur cette situation, où serons-nous à cette époque? Allah seul le sait. Allah seul le sait. Mais nous avons espoir qu'Allah nous accepte parmi les Ahlul Jannah, ceux qui entreront dans le Jannah bi ghayri hisabin wa la adhabin. Allahumma amin. Et donc quand Allah aura terminé de juger la création et que tout sera décrété, Allah va extraire Kitab min tahti al-arsh, un écrit au-dessous de son trône, de lequel est stipulé inna rahmati sabaqat ghadabi, que ma clémence prédomine sur ma colère, wa ana arhamur rahimin, et je suis le clément, le miséricordieux. Et Allah va prendre une quantité de personnes, une quantité où à deux reprises des gens fayukhriju minan nari khalqan lam ya'malu khayra. Allah va extraire du feu de l'enfer des personnes qui ont la ilaha illallah de leur cœur, mais qui n'auront jamais accompli la moindre bonne action dans ce monde. Et ces gens auront le sceau écrit sur eux, sera écrit sur eux, utaqa'ullah, les gens qui ont été délivrés de l'enfer directement, personnellement par Allah Azza wa Jal. Ce sera là un signe de manifestation de sa clémence, yawmul hashr, le jour des comptes. Maintenant attention, ce sont des événements que nous ne maîtrisons pas. Qu'est-ce qui va se passer avant, pendant, après, combien de temps? Ce sont des notions. Nous n'avons qu'une notion de tout ça. Il ne faudrait pas qu'une personne comprenne de travers les textes en se disant que ben, même si je n'accomplis aucune bonne action, de toute façon, Allah finira par nous enlever de l'enfer. C'est bien stipulé de le hadith qui est authentique, cité par Ibn Kathir. Aucunement, ikhwani fillah. Une seconde, une vision de l'enfer, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Déjà de ce dunya, avant de quitter ce monde, le pécheur qui voit l'ange de la mort se présenter sous son aspect effrayant, les savants disent que c'est suffisant comme azab pour lui, pour couronner toute sa vie, pour sanctionner, pardon, toute sa vie de péché. Cette vision est amplement suffisante. Que dire maintenant de la vision de l'enfer, qu'Allah nous protège? Et que dire d'une seconde passée dans le Jahannam? Est-ce qu'on va compter là-dessus? Attendre d'être jeté dans l'enfer combien de temps? Et quand aura lieu notre jugement à nous? Et quand Allah va retirer des gens de l'enfer, ce sera après le jugement. Combien de temps va durer le jugement d'un être humain? Et combien de croyants, combien de personnes sur terre, depuis Adam alayhi salam, 3000 milliards, 4000 milliards, Dieu seul le sait. Donc ce qui implique que la personne qui va être extraite de l'enfer par la clémence d'Allah, c'est quelqu'un qui sera déjà dans les souffrances du Jahannam. Et ça, il ne faut surtout pas être cette personne. Mais en finalité, Allah le fera. Et si, sans sortir du sujet, on peut faire un parallèle avec d'autres, parce que ikhwani khawat fillah, le din, c'est un puzzle de textes, de hadith, de textes prophétiques qui commentent les versets, qui eux-mêmes se commentent mutuellement. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Et on a besoin de cette vision globale de la religion pour comprendre et se prononcer sur la religion. D'où le fait qu'il faut prendre beaucoup de précautions, il faut faire très attention de ne pas parler sans connaissance religieuse. Et donc, le parallèle qu'on voulait faire, c'est que dans d'autres hadiths, il est stipulé que le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izza demandera, autorisera le prophète alayhi salatu wa salam d'intercéder pour des personnes de sa umma qui seront dans l'enfer à cause de leur péché. Le prophète dit qu'il ira les chercher un par un dans l'enfer et les sortira de l'enfer. Et ils seront déjà brûlés, carbonisés totalement par le feu de l'enfer, et ils vont se baigner dans un fleuve du Jannah et vont retrouver la splendeur et la beauté des gens du paradis pour y accéder. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, nous ne devons jamais oublier qu'il y aura des gens comme vous et moi qui jeûnent, qui prient, qui font le hajj, qui iront dans l'enfer à cause de leur péché. Ikhwan et khawati fillah, faisons très attention au péché. C'est pour ça que As-Sa'di, de le tafsir qu'on a cité hier, il a dit qu'il ne suffit, pas d'aimer Allah, il ne suffit pas d'adorer Allah, il faut avec ça se débarrasser totalement de ses péchés. Parce que la pire des situations, c'est se présenter devant Allah le jour de Qiyama avec un livret de compte rempli ou à moitié rempli, ou de lequel il y a encore des péchés. Parce qu'en ce jour, la présentation d'un péché, ce sera quelque chose de totalement insupportable. Et Allah seul sait quelle sera l'issue de la présentation de ses péchés le jour de Qiyama. D'où l'importance de se délester totalement de ses péchés dans ce dunya hada. Et ce hadith concernant le fait que des gens qui ont la foi vont sortir du feu de l'enfer par l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam, nous permet de faire un parallèle avec l'autre hadith qui est très connu, qui stipule que les gens qui ont la ilaha illallah n'iront pas en enfer. De le sens de, ça veut dire quoi qu'ils n'iront pas en enfer? C'est-à-dire une entrée avec khouloud. Ils ne resteront pas éternellement dans l'enfer. Ils finiront par en sortir pour aller dans le Jannah. Parce que c'est ce que notre Seigneur a prévu pour tous ceux qui ont même un atome de la ilaha illallah dans leur cœur. On revient sur le verset de Kataba Rabbukum ala nafsihi rahma. Ibn Kathir rahimahullah commente par un troisième hadith, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, de lequel dit que le prophète alayhi salatu wa sallam dit: ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah a réparti sa clémence en 100 ajza, 100 catégories. 100 catégories de rahma différentes. 100 portions de rahma. Fa'amsaka 'indahu, et Allah gardait auprès de lui 99 rahma. Et Allah wa anzala fil ard juz'an wahida. Allah fait descendre sur cette terre 1%, on va dire, de cette clémence. Et c'est par ce pourcentage, ce 1% de la clémence, que les créatures, nous, nous avons de la pitié, de la compassion, de l'amour, de la clémence, de la miséricorde entre nous. Et c'est par ce pourcent, et ça, ça régit l'ensemble de la création depuis le début jusqu'au Qiyam. Et c'est avec ce pourcent, ce 1% de Rahman également, que les animaux ont de la clémence entre eux, et principalement pour leurs petits, comme le stipule le hadith. Et 99 rahma, Allah les gardera pour les gens qui ont cru en lui le jour de Qiyama. Et nous avons grand espoir, et nous devons avoir grand espoir de la clémence de notre Seigneur le jour du Qiyama. Hadith, également, quatrième hadith, de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, de lequel il stipulait que le prophète alayhi salatu wa sallam avait demandé aux sahaba: atadri ma haqqullahi ala al-ibadi, savez-vous quel est le droit, quel est le droit d'Allah sur les serviteurs, dans le sens quel est le devoir des serviteurs envers leur Seigneur? An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ils doivent l'adorer sans l'associer quiconque. Et maintenant, ce qu'Allah va nous donner en compensation, ce qu'on appelle le haqq al-ibad, le droit en guillemets du serviteur, c'est s'ils l'accomplissent, s'ils font, il reste de le tawhid, Allah yu'adhibahum, Allah fait la promesse de ne pas les punir, de ne pas les châtier. Donc ce que nous devons retenir, ikhwani akhawati fillah, pour conclure ce verset sur kataba rabbukum ala nafsi rahma, que notre Seigneur est Rahman Rahim, et que pour faire un lien avec la première partie des versets d'hier concernant la da'wa, inviter les gens et les rappeler qu'Allah est clément et miséricordieux, afin que de leur cœur naît l'espoir du pardon divin. Ne pas effrayer les gens, mais bien au contraire, les ramener vers le dîn en rappelant qu'Allah est clément et qu'Allah est pardonnant. Parce que dans la dernière partie du verset, Allah parle de son pardon. فَأَنَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. Et il y a les deux noms d'Allah qui sont joints. Rafour, pardonneur, et Rahim, miséricordieux. La da'wa se base sur la clémence et la miséricorde et le pardon divin. En premier lieu. Deuxièmement, nous devons retenir en conclusion que la clémence d'Allah, c'est la relation prédominante qui régit entre nous et notre Seigneur. Entre nous et notre Seigneur. Et ne jamais oublier que les noms Rahman, Rahim, ce sont les deux noms d'Allah que nous citons le plus et que nous lisons le plus chaque jour. Dans la Fatiha et dans la Basmala, Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, afin que chaque mu'min se souvienne qu'Allah est clément et miséricordieux. Et troisièmement, si on peut conclure, ça c'est un point un peu plus technique, et ça on le rappelle souvent dans l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal, At-takhalluqu bi akhlaqillah. Le mu'min prend conscience de la façon dont Allah agit avec nous, et à notre tour nous devons agir avec les créatures d'Allah en s'inspirant de cette qualité d'Allah. C'est ce qu'on appelle « at-takhalluqu bi akhlaqillah ». Ainsi, quand nous voyons que notre Seigneur est clément et miséricordieux, à nous de faire preuve de clémence avec les autres, dans nos relations avec notre prochain. Et cela se décline, si on se cantonne sur le verset qu'on a lu, sur deux qualités, deux points essentiels. Premièrement, ne jamais faire zulm sur notre prochain, ne jamais faire preuve d'oppression, ne pas mal agir avec notre prochain. Car notre Seigneur lui-même décrète qu'il a décidé, il a décrété qu'il n'agira jamais avec zulm, il ne fera jamais oppression sur ses serviteurs. Et le hadith stipule qu'il nous demande « Fala tava l'amour ». Ne soyez pas injustes entre vous. Ne soyez pas injustes les uns avec les autres. Ainsi, Ikhwan et Filah, nous devons bannir complètement de nos paroles et de nos agissements et même de notre cœur le zulm. De notre cœur, avant que j'oublie, c'est le su'udhan. Quand on a des mauvaises pensées sur notre prochain, c'est une manifestation de zulm, d'oppression, d'injustice. De nos paroles, de nos actes, ne jamais faire preuve d'oppression, ne jamais opprimer notre prochain par des paroles qui vont le blesser ou par un quelconque comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que al-zulmu dhulumatun yawm al-qiyam, que le zulm, l'oppression, l'injustice sera source d'obscurité le jour de Qiyam. Alors qu'en ce jour, on a besoin de lumière, on a besoin de clémence divine, mais le zulm va nous éloigner, va nous priver de cette lumière et de cette clémence divine qu'Allah nous protège. N'oublions jamais que le prophète a dit également dans le hadith que chaque zalim sera ressuscité le jour de Qiyam avec un liwa. Le liwa, c'est un drapeau. Un drapeau par lequel on va reconnaître qui étaient les oppresseurs. Ainsi, chers frères et sœurs, parenthèse, n'ayez aucune crainte pour ces tyrans de notre dunya, ces dirigeants injustes. De toute façon, le jour de Qiyama, s'il n'y a pas justice sur terre, il y aura assurément justice le jour de Qiyama. Ils seront reconnaissables le jour de Qiyama par ce drapeau de l'injustice et avec les conséquences qui vont suivre. Donc, première qualité, première manifestation de cette observation de l'agissement d'Allah envers nous, ne pas être injuste avec notre prochain. Et deuxièmement, faire preuve de clémence, de miséricorde avec notre prochain. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé Ar-Rahama ou Yarhamuhum Ar-Rahman. Ar-Rahama, ceux qui font preuve de clémence avec les créatures d'Allah, ce sont eux qui vont bénéficier en priorité de la clémence divine. Ils bénéficieront de la clémence d'Allah dans ce dunya donc, mais également de l'akhir. Et le prophète conclut, dit « Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama ». Soyez clément, miséricordieux, bienveillant avec les gens de ce monde, avec les créatures d'Allah, et Allah au-dessus min fawqi al-arsh, Allah Rabbul Izzah fera preuve de clémence envers vous. Donc si nous voulons obtenir la clémence d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà, nous devons faire preuve de clémence entre nous. Et n'oublions jamais, on va conclure avec ce hadith, que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que personne n'entrera au paradis uniquement par ses bonnes actions. Personne ne doit être fier de ses bonnes œuvres et s'en vanter de ce monde, parce qu'Allah seul sait ce que nos bonnes œuvres valent réellement. Mais c'est par la clémence d'Allah que nous entrerons et que nous accéderons au Jannah. Et si nous voulons donc, ça va nous rappeler, obtenir cette clémence divine, ben, la qualité prédominante de notre vie, c'est la compassion. Je le répète encore une fois, la clémence et la miséricorde, ayons le meilleur des comportements avec notre prochain, avec tout le monde. Et quand on a ce bon comportement, on le fait pour Allah. C'est pas un bon comportement, c'est mon éducation, c'est de la politesse, de la bienséance. Non, je le fais pour Allah. Je le fais pour Allah parce que j'ai espoir qu'il y a Allah. Cette personne m'a fait du tort. Cette personne a été injuste, mais moi j'agis correctement avec lui. J'ai espoir que tu auras pitié de moi le jour de Qiyama comme j'ai pitié de lui. Imaginez qu'on a une personne qui travaille pour nous, une personne qui est sous notre responsabilité, que la personne a commis des erreurs et qu'on est en droit de sévir. C'est le cas également de celui qui contient sa colère pour Allah. Ben, faisons-le. Ce bon comportement, faisons-le avec espoir, c'est ce qu'on appelle ihtisab ou l'ajr, avec espoir de rétribution, dit Allah, j'ai fait preuve de pitié avec mon employé, avec cette personne, et ainsi de suite, parce que, ya Allah, j'ai besoin de ta clémence au jour de Qiyam. Par cette action, ya Allah, aie pitié de moi le jour de Qiyam. Faisons cette intention. Et vous allez voir que cette clémence va s'installer dans notre bon comportement. Ça deviendra une qualité propre, intrinsèque à chaque mu'min si on le fait lillahi. Et mes chers frères, il est difficile de bien agir avec les gens si ce n'est pas pour Allah. Parce que très souvent, on agit bien avec une personne et il n'y a pas de retour de bon comportement. Et des fois, on est déçu, on ne veut plus le voir. On se dit, moi j'ai bien agi et lui, il n'y a pas de retour, il agit de cette façon, ainsi de suite. Si on le fait par désir d'équité, d'équilibre dans nos relations entre nous, ben, ça n'aboutira à rien. Parce qu'on ne pourra pas s'attendre à une reconnaissance totale de l'homme. Mais si on le fait pour Allah, même si la personne en face de nous n'agit pas correctement, on restera ferme, on aura istiqama dans ce bon comportement parce que je le fais pour Allah. Même si toi tu agis mal, ben Allah aura pitié de moi le jour de Qiyamah. Et c'est mon objectif. Mon but, ce n'est pas toi, ô Ishaq, ô Abdullah, ô Fatima. Mon but, c'est mon Seigneur. Tu fais partie des créatures de mon Seigneur. J'agis bien avec toi, avec espoir qu'Allah agira bien avec moi le jour de Qiyam. C'est vraiment ce ikhlas qu'on parle de la sincérité. C'est la sincérité qui est dans toutes nos bonnes œuvres, pas uniquement des actions apparentes, mais même de le bon comportement. Agis bien pour Allah et tu trouveras la fermeté et la réalité de cette action et tu mourras sur ce bon comportement et bénéficieras, incha'Allah, de la clémence divine le jour de Qiyam. Allahumma ja'alna minhum. Et je termine par un message. Je l'ai déjà fait passer à l'attention de toute personne qui a des responsabilités dans ce dunya. Je suis chef d'entreprise. J'ai un commerce, ou ainsi de suite. Yomul Eid. L'activité va reprendre le 11 mai, Inch'Allah. C'est-à-dire que les commerces seront ouverts. Le jour de Eid, si vous avez des employés de confession musulmane, accordez-le à la journée. Et une journée où ils seront rémunérés. Faites-le pour Allah. Ne privez pas un croyant d'une journée passée en famille avec sa femme et ses enfants pour une centaine ou quelques milliers d'euros. Faites-le pour Allah avec espoir qu'Allah aura pitié de moi le jour de Qiyam. Wa ma tawfiqi illa billah. Il nous reste une dernière partie de ce verset. C'est justement le verset concernant le pardon divin. Annahu man 'amila minkum su'an min jahala ila akhir al-aya. Ça en fera, incha'Allah, le tafsir demain. Wa tawfiqi illa billah. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.